Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Comment apprendre à dessiner? Comment apprendre à accepter les critiques venant d'un grand dans le domaine de l'art que l'on a choisi, le 9e? Comment inventer un héros de bande dessinée? Et quelle physique lui attribuer? Peut-être en cherchant dans la statuaire grecque, fut-il gaulois. Comment représenter les toits des maisons de la Chine du 1er siècle avant Jésus-Christ? Comment créer, entre les documents historiques dont il faut bien s'entourer, et sa propre imagination? Comment résister au public et à ses rédacteurs en chef qui refusent de voir un personnage secondaire, Enak, disparaître après un petit tome d'aventure? Pourquoi Enak? C'est lui le personnage secondaire, mais l'est-il tant que cela secondaire? Pourquoi Enak est-il habillé en bleu? Et pourquoi Alix est-il vêtu de rouge? Le 16 avril 1998, Olivier Germain-Thomas recevait Jacques Martin dans Fort intérieur.
Fort intérieur avec Jacques Martin. Combien sont-ils ces adolescents qui ont découvert et aimé l'Antiquité grâce à vous? Et l'histoire vous doit beaucoup, monsieur, ainsi que le rêve. Vous êtes Jacques Martin, auteur d'une vingtaine d'ouvrages consacrés à Alix qui nous entraîne dans les différentes cultures de l'Antiquité et même jusqu'à la Chine. C'est dire justement si votre imagination est foisonnante. Mais il n'y a pas que Alix dans votre vie puisque vous avez créé d'autres personnages, peut-être moins célèbres, peut-être moins réputés, mais qui vous ont permis également de transmettre votre vision des choses. Parlons de Lefranc et de Gênes. Pendant longtemps, nous n'avons pas vu d'ouvrage de vous sortir. Et puis, récemment, une très bonne surprise avec O. Alexandrie, un nouvel Alix qui va être confronté à des personnages qui font partie de notre mythologie, comme Cléopâtre. Alors, il est important de voir avec vous comment s'est établi justement dans vos bandes dessinées, la relation entre l'histoire, car je sais que vous êtes un homme méticuleux et vous cherchez très souvent beaucoup de documentation, et puis la part de l'imagination, parce que si vous n'aviez fait que traduire ce que nous savons de l'Antiquité, vous n'auriez jamais pu publier ces 20 ouvrages. Et puis nous verrons aussi avec vous les étapes de formation. On vous associe souvent à la Belgique parce que vous avez travaillé avec Hergé, mais en réalité vous êtes né en Alsace et l'Alsace de votre enfance a compté. Donc au départ, allons voir les premières bases et allons dans les années 20, dans cette Alsace qui a formé votre imagination. Quel était donc l'univers qui vous environnait à l'époque?
L'univers qui m'environnait était les Vosges, la ligne des Vosges et les villages alsaciens qui entouraient Aubernais, la ville dont je me souviens le mieux. Et il est vrai que né à Strasbourg, je n'ai que des flashs de mon séjour à Strasbourg tout petit. Et je prends conscience vraiment de mon existence, si vous voulez, à partir d'Aubernais, à partir de 3-4 ans. Alors là, j'ai des tas de choses en mémoire, bien sûr, d'autant plus que j'y retourne assez souvent, puisque c'est sur la route entre la Suisse où j'habite, où je réside, et la Belgique où j'ai gardé une maison et beaucoup d'amis et une partie de ma famille, et des collaborateurs aussi. Donc je passe souvent dans l'Alsace et j'aime beaucoup de m'arrêter au Bernay. J'y suis encore passé dernièrement. Alors là, évidemment, ces châteaux des Vosges, cet aspect médiéval de l'Alsace a beaucoup influencé ma jeunesse et a certainement eu une importance sur mon goût pour l'histoire. Et je me souviens que, tout enfant, j'étais très dynamique. Et alors j'avais ramassé une bande de petits copains et on s'est déguisé en chevalier du Moyen-Âge avec des sacs et qu'on argentait avec de la peinture et qui imitait les cottes de mailles et on fabriquait des armures en carton et on défilait comme ça dans les rues d'Aubernay à la grande joie des gens du cru. Et mais c'est déjà cet amour de l'histoire m'entraînait à faire des choses comme ça. Et alors très tôt j'ai lu des ouvrages sur l'Antiquité. Et alors là, ça a été le coup de foudre. Et j'ai décidé, très tôt, de faire quelque chose dans ma vie avec l'Antiquité. Je ne savais pas quoi.
Oui, donc au départ, tout était ouvert. Vous auriez pu devenir historien, éventuellement.
Oui, non, pas tellement. J'ai été attiré, mon père était aviateur, j'ai été attiré par l'aviation. J'aurais aimé être acteur de cinéma ou metteur en scène, plus metteur en scène qu'acteur, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait une démarche comme celle-là en 1946. J'aurais aimé être danseur d'opéra, je vous le cache pas. J'avais une admiration folle pour des gens comme Serge Dufard et Serge Piretti avant-guerre, etc. Bon, j'avais un faisceau de vocation très, très développé. Mais malgré tout, c'est la bande dessinée qui m'attirait le plus. Et j'ai réussi tout de même, parce que ce n'était pas facile, à l'époque, à m'orienter et à me fixer sur la bande dessinée. En France, c'était impossible. Et c'est pour ça que je suis monté en Belgique pour 3 semaines et j'y suis resté 35 ans.
Alors auparavant, il y a un traumatisme important dans votre vie qui est la mort du père alors que vous avez 11 ans.
J'avais 11 ans lorsque mon père, malheureusement, s'est tué en avion à Villacoublay, ici au sud de Paris. À l'époque, j'habitais Châtenay-Malabry. Nous habitions Châtenay-Malabry. Évidemment, quand dans une famille, le père disparaît d'une manière comme celle-là et avec l'importance qu'il avait dans notre existence, ça change beaucoup. Si bien que ma mère, après quelques temps, a dû travailler. Et nous voilà, mon frère et moi, en pension. C'est une chose que j'ai très mal digérée, d'ailleurs. J'ai toujours détesté la pension. Et mes souvenirs sont très, très négatifs à cet égard. Et alors, par-dessus le marché, j'ai eu à ce moment-là des personnes qui se sont occupées de mon éducation. N'est-ce pas, ma mère, j'imagine, parce que je n'ai pas les détails de tout cela en mémoire, mais avait un fonds qui payait nos études à mon frère et moi. Et lorsque j'ai dit à ces gens-là, bien avant-guerre, que je voulais faire les beaux-arts, ils se sont dit, quoi, les beaux-arts, mais il est fou ce garçon. C'est sans avenir, un métier d'artiste, qu'est-ce que c'est? Et alors, on m'a mis aux arts et métiers, parce qu'on s'est dit, il va faire... quelques arts, il va apprendre quelques arts et en même temps il apprendra un métier, ce qui est un leurre parce que les arts et métiers apprennent des tas de choses mais pas les arts graphiques auxquels je souhaitais consacrer ma vie.
Alors comment les avez-vous
appris? J'ai perdu mon temps là-dedans.
Oui. Alors comment avez-vous appris à dessiner?
Mais après.
Par vous-même alors?
Oui,
ou bien
bien sûr,
il y a des gens qui vous ont guidé quand vous êtes
non,
allé en Belgique?
Non, pas du tout. Je me suis lancé là-dedans comme quelqu'un qui se lance dans une piscine pour apprendre, qui ne sait pas nager, qui se lance dans une piscine ou dans un cours d'eau pour apprendre à nager, sans savoir comment il va s'en sortir. J'ai pris des risques énormes, je l'avoue. Hein. Maintenant, avec le recul du temps, je me rends compte. J'ai pris des risques fantastiques qui auraient pu me coûter très cher. Et puis, heureusement, j'ai réussi. Parce qu'il est évident qu'à l'heure actuelle, la démarche que j'ai faite ne réussirait pas, n'aboutirait à rien. Parce que maintenant, le public est très concerné par la bande dessinée, connaît très bien des arcanes de cette profession, et en même temps est exigeant, parce qu'on lui a offert, entre-temps, des tas de choses de qualité. Mais au moment où j'ai démarré, c'est-à-dire après la guerre en 1946, où j'ai démarré dans la bande dessinée en Belgique, le public était beaucoup moins difficile, il y avait beaucoup moins d'auteurs. On était une quinzaine en Europe, c'est tout. Maintenant, je ne vais pas les compter, c'est par centaines.
C'est ça, d'un autre côté, vous n'aviez pas une tradition sur laquelle vous appuyez, donc vous avez
Il y avait Hergé.
Vous avez eu certainement le sentiment dans ces années d'après-guerre en Belgique, le sentiment d'être une sorte de pionnier, parce que ouvriez la voie à un nouveau genre.
Tout à fait, j'ai souvent répété cela, j'ai dit on avait le sentiment d'être des pionniers comme les gens qui ont fait les premières automobiles ou les premiers avions, avec cet engouement, cet emballement et cette liberté formidable que l'on a eue. Et cette sensation extraordinaire de découvrir un terrain qui était vierge, de découvrir quelque chose qu'on connaissait pas. On tâtonnait, on, mais vraiment comme les pionniers de l'automobile et de l'aviation, je ne peux pas faire d'autres meilleures figures. Et alors, évidemment, ça s'est rapidement transformé, ça s'est industrialisé, ça s'est spécialisé. À mon grand dam, je l'avoue, à mon déplaisir, parce que, égoïstement parlant, c'était plus intéressant, plus amusant de faire ce travail en tant que chercheur, en tant que pionnier, que maintenant comme étant un des membres de cette énorme machine qu'est la bande dessinée.
Vous regrettez la période artisanale, bien sûr, d'ailleurs.
Bien entendu.
Il y a des récits de vos rencontres autour du journal Tintin, comme ça, dans des cafés après le bouclage, où vous étiez donc 5, 6 parmi les plus grands de la bande dessinée, à vous retrouver, à plaisanter. Oui. Et on rêve, en fin de compte, de voir que d'une manière très libre, vous envoyez des colibés, vous parliez, et vous êtes ceux qui, à travers Black et Mortimer, à travers Tintin ou à travers Alix, ont marqué le plus la bande dessinée de langue française.
Oui, bien sûr. J'ai rencontré
Donc là, vous avez eu la chance de tomber sur ce foyer qui a été le grand foyer, quand même, de cette création-là.
Oui, c'est une chance que j'ai eue. C'est une chance formidable que j'ai eue, bien entendu. Mais je le répète, on était très peu, n'est-ce pas ? Il y avait, même en comptant les gens de chez Dupuis, en comptant les gens de chez qui participaient au journal de Spirou, on était une quinzaine en Belgique à tout casser. Et autrement dit, en Europe. Et alors, on se connaissait tous. On se rencontrait, comme vous avez dit. On se voyait assez souvent. On plaisantait, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble, etc. Bien entendu, on se tutoyait, on était très, très amis, sauf Hergé.
Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'avec Hergé, vos rapports, semble-t-il, étaient aigre-doux.
Au début, oui. Parce qu'il m'avait mal accueilli, disons. Moi qui avais une admiration folle pour lui, j'ai été très déçu de le rencontrer pour la première fois, c'est-à-dire à fin septembre 1948. Lorsqu'il m'a dit « Ah, c'est vous, vous avez beaucoup de progrès à faire, vous n'êtes pas très fort en dessin. » Alors, lorsqu'quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, lors d'un repas, puisque ça se passait lors d'un repas à Bruxelles, près de la Bourse, à Bruxelles, ça vous défrise. Et alors, heureusement, j'ai Paul Cuvelier, qui a été mon grand ami de cette époque, dans le domaine de la bande dessinée, il m'a dit « Mais écoute, ne te tracasse pas, il a dit ça comme ça, tu sais, bon, il se prend un peu pour Jésus-Christ, m'a-t-il dit, je reprends son expression, mais tu verras, tu réussiras, etc. » Mais je suis quand même rentré chez moi un peu déçu et amer.
Enfin, vous étiez jeune encore, vous pouviez encore faire des progrès.
Oui, mais bien sûr, bien sûr, mais enfin, cet accueil avait été un peu froid quand même. Et alors, ce qui m'a quand même consolé, c'est que quelques temps après, Hergé m'a demandé de devenir son collaborateur, donc il avait changé d'avis. Bien sûr, il avait changé d'avis et au contraire, il estimait que les progrès que j'avais faits, les dessins que je réalisais étaient tout de même d'une certaine qualité. Puis il m'a demandé de devenir collaborateur déjà en 1951. Donc c'était très. Et j'ai longtemps hésité puisque je n'ai accepté de rentrer dans ces studios qu'en février 54. Donc vous voyez, je n'ai pas dit oui tout de suite. Et tout là, en collaborant avec lui d'ailleurs.
Vous étiez entièrement libre de créer ce que vous aviez envie de créer.
Chirgé, oui et non. C'est-à-dire que j'avais tout de même demandé et j'avais obtenu de continuer mes séries, puisque j'avais déjà entamé et Alix et Lefranc. Alors j'avais demandé et obtenu, je le répète, de pouvoir continuer ces séries-là. Mais il est évident que en me mettant au service du studio Hergé, je devais réaliser avec Hergé les albums de Tintin et puis les chromos, on va savoir, des tas de choses comme ça, n'est-ce pas, tout ce qui tournait autour des personnages de Tintin.
C'est ça, mais entre vous-même, lorsque vous aviez la plume à la main, à créer un personnage et une histoire autour d'Alix, vous étiez entièrement libre.
Ah oui, bien sûr.
Oui, c'est ça. Vous étiez collaborateur d'Hergé pour lui donner un
coup de main. On avait mis tout ensemble. Moi, j'étais venu à Bruxelles avec mes deux collaborateurs qui étaient à l'époque Roger Leloup, qui a fait la carrière que l'on connaît avec Yoko Tsuno, et Michel Demaret. Et Hergé avait son équipe. Et alors, nous avons engagé justement. Puisqu'on avait renforcé cette équipe, il avait deux, trois personnes, moi j'en avais deux aussi. On a frisé à un moment donné les 10, on a cherché des coloristes. Et alors on a trouvé ces coloristes qui travaillaient d'une façon commune, si vous voulez, travailler pour les albums de Tintin, bien sûr, mais aussi pour les miens. Elles étaient là pour faire ces travaux-là.
Alors la naissance du personnage d'Alix, qui est devenu maintenant un personnage mythique, vous choisissez donc un Gaulois.
Mais c'est-à-dire que j'ai choisi un Gaulois dans un contexte très particulier. Je savais à ce moment-là que, à l'époque où César faisait la conquête de la Gaule, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait trois consuls à Rome, il y avait César, Pompée et Crassus. Alors, Pompée reste à Rome, Crassus va en Syrie pour essayer de retrouver le chemin d'Alexandre le Grand, et César fait la conquête de la Gaule. Bien. Avec comme arrière-pensée de réunir un empire, puisqu'il comptait aussi, à ce moment-là, faire la conquête de l'Ibérie, autrement dit de l'Espagne. Alors, ce qui m'a frappé tout de suite, après les lectures que j'ai faites, c'est de constater qu'en Gaule, il n'y avait pas d'unité nationale. Il n'y avait pas d'État. Il n'y avait pas ce concept de la nation, de la patrie qu'on a retrouvé bien plus tard, à l'époque de Jeanne d'Arc. Et qu'au contraire, les tribus gauloises avaient appelé César à la rescousse contre d'autres tribus celtiques, parce que ce sont des Celtes. Tandis qu'à ce moment-là, avec Crassus en Syrie, il y a toute une légion de mercenaires gaulois qui font campagne. Ça m'avait frappé, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, des Gaulois qui se battent avec les Romains contre des Parthes et des Orientaux pendant qu'on fait la conquête de leur pays, ça m'a choqué. Et j'ai découvert, bien entendu, qu'en plongeant encore plus dans l'histoire, qu'il n'y avait pas ce concept de nationalité et que Vercingétorix était avant tout un personnage qui défendait son royaume, qui défendait son fief. Et alors, j'ai imaginé un jeune personnage, parce que une légion, je reviens à ma légion gauloise en Syrie, il faut faire des parenthèses dans tout ça, que pourquoi les Romains engageaient-ils des Gaulois? C'est parce que les Gaulois étaient meilleurs cavaliers que les Romains sont des ne faut pas l'oublier, des paysans. Ils sont très mauvais à cheval, ils sont très mauvais pour la marine. Ils cherchent toujours à faire le combat à pied, par terre. Ce sont des paysans. Alors, ils engagent cette légion de mercenaires gaulois. Mais une légion était à peu près 15 000 hommes avec bagages. Qu'est-ce que c'était que les bagages? C'était des femmes, des enfants, et bien des marchands, en particulier des marchands d'esclaves, qui n'attendaient qu'une chose, c'est la suite des combats pour prendre des prisonniers et les vendre en tant qu'esclaves. Bien. Alors, il y avait dans cette équipée, j'ai imaginé un jeune gaulois perdu. Et c'est Alix. Je lui ai quand même eu le souci de lui donner un aspect d'une statue grecque. Parce que je me disais, je vais en faire méditerranéen, je vais en faire un personnage type. Et j'ai cherché dans la statuaire grecque son physique. Voilà comment est né Alix. Mais il est né en 5 minutes. C'est parce que j'avais lu tout ça. J'avais lu tout ce que je viens de vous raconter.
Pour un peu de tendresse, je donnerai les diamants que le diable caresse dans mes coffres d'argent. Pourquoi crois-tu, la belle, que les marins au port vident leurs escarcelles pour offrir des trésors à de fausses princesses? Pour un peu de tendresse, pour un peu de tendresse, je changerai de visage, je changerai d'ivresse, je changerai de langage. Pourquoi crois-tu, la belle, qu'au sommet de leur chant, empereurs et ménestrels abandonnent souvent puissances et richesses pour un peu de tendresse?
Alors Jacques Martin, on a bien vu avec votre personnage d'Alix, vous avez choisi une période historique bien précise qui correspond à peu près à la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, vers 50 avant Jésus-Christ, lorsqu'il y a justement toutes ces batailles pour le pouvoir à Rome. Alix, lui, est au service de Jules César et sa fidélité de ce côté-là sera maintenu tout du long, hein, lorsqu'il y a ces rivalités. Cela dit, il se sent quand même culturellement attaché à sa patrie d'origine, les Gaulois, et lorsqu'il peut y avoir des tensions entre certaines tribus gauloises et Rome, il se sent très déchiré. D'ailleurs, avec un certain tact parfois, Jules César essaie de l'éviter, de le mettre dans des situations trop rudes. Alors, moi, ce que j'aimerais voir chez vous, c'est le processus de fonctionnement entre tous les documents historiques dont vous êtes entouré et puis l'imagination. D'autant plus que pour élaborer 20 albums autour d'Alix, tout ne peut pas se situer entre la Gaule et Rome. Et vous avez largement élargi en nous entraînant à la fois en Égypte, en Grèce, dans différents endroits, que ce soit Sparte, Athènes, et puis même encore plus loin, jusqu'à la Chine. Donc, d'un côté, vous avez la réalité historique, et de l'autre côté, il y a le vagabondage de votre imagination. Comment se crée ce dialogue ?
Mais sans beaucoup de difficultés, croyez-moi. Mais il est évident que les scénarii d'Alix se sont forgés au fil du temps en fonction de mes lectures. J'ai lu beaucoup, j'ai lu énormément sur cette période-là. Et par exemple, pour revenir à l'empereur de Chine, l'histoire de la montagne peinte en rouge et du jeune prince sacrifié par l'empereur, c'est une histoire authentique, je n'ai rien inventé là, n'est-ce pas? Et par exemple, le fait qu'on ne sache pas quel est le personnage qui a été tué au Capitole au moment du triomphe de César en tant que Vercingétorix, eh bien, on a des doutes. Certains historiens ont émis des tas d'hypothèses à ce sujet. Un esclave aurait été tué à la place. Ça se passe des années après la conquête de la Gaule. On ne sait pas en fait ce qu'est devenu Vercingétorix, le vrai Vercingétorix. Parce que personne n'a reconnu le personnage qu'on a fait défiler à Rome dans le triomphe de César, d'une part. Deuxièmement, Pompée était assez malin pour avoir fait partir le personnage, s'il l'avait voulu. Donc, il y a des trous dans l'histoire qui me permettent, des parties noires dans l'histoire qui me permettent de foncer, de foncer dans ces brèches, avec, bien entendu, toutes les connaissances que j'ai pu avoir d'une manière livresque. J'ai lu, je le répète, énormément de choses, énormément, et je continue à m'informer sur cette époque, sur cette période. Et alors, j'ai davantage d'idées que de possibilités de les exprimer, malheureusement.
Vous avez encore plein de projets. Il va falloir une très très longue vie pour les réaliser.
J'espère, je touche du bois, mais j'espère. Ouais. Mais à l'heure actuelle, donc avec Sébastien, j'ai au moins une dizaine de scénarii prêts à fonctionner sur Alix, sans compter ce que je vais trouver entre temps. Mais ces scénarios seraient reposant sur des choses bien précises, sur des faits connus ou moins connus, ou authentiques, ou des situations intéressantes, ou des situations qui, moi, m'intéressent. Par exemple, comme je ferai un jour un épisode qui s'intitulera Le fleuve de Jade, et qui, d'abord, est intéressante pour la recherche des sources du Nil. Qui est un sujet qui passionnait les anciens, d'une part. Deuxièmement, le centre de l'Afrique, qui, à cette époque-là, est toujours considéré par les anciens comme étant le lieu de leur origine, n'est-ce pas ? D'une part. Deuxièmement, comme étant peuplé par des géants, les fameux géants de la mythologie. Et qu'étaient ces géants ? Je ne sais pas, je fais des recherches là-dessus.
Alors, il y a d'un côté le scénario, et de l'autre, il y a le décor, et le cadre, et les détails de la vie quotidienne, et les paysages. En ce qui concerne les décors, les vêtements, les manières d'être, les habitations, pour tout cela, vous vous entourez aussi d'une documentation très sérieuse ?
Bien entendu, et alors, c'est dans la mesure du possible, je vais sur place faire des tas de photographies, j'ai toujours fait ça. N'est-ce pas? L'Égypte, c'est pas difficile. Le Soudan, ça l'est beaucoup, beaucoup plus. Par exemple, si un jour je reconstitue Méroé, le royaume de Méroé, où il y a énormément de choses intéressantes à les photographier, c'est un peu délicat parce que c'est au Soudan. Et le Soudan, à l'heure actuelle, a un gouvernement qui n'est pas très facile. J'ai déjà discuté avec des gens qui ont été là-bas, qui m'ont dit, vous savez, pour prendre votre élan, c'est très, très, très compliqué, c'est très difficile, etc. Alors, que faire? La même chose pour le Yémen. Parce que j'envisage de d'écrire un épisode qui s'intitulerait, pour Alix, le roi de Saba. Une petite plaisanterie avec la reine de Saba. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la reine de Saba. Mais allô, Yémen, des événements récents prouvaient que c'était tout de même assez hasardeux.
Ah, c'est facile maintenant, c'est facile. Vous pouvez très bien aller voir la capitale de la reine de Saba, qui est Mereb. Maintenant, on y va facilement.
Ah bon? Oui, ah oui. Vous m'annoncez quelque chose d'intéressant.
Vous prenez un petit avilan de quadrimoteur, là, et vous atterrissez où vous voulez dans l'Yémen. Donc là, je crois que vous tenez un magnifique sujet. Hein. Les paysages, vous avez besoin, Jacques Martin, d'aller les voir vous-même.
Oui,
hein. Vous
ne
vous contentez
oui,
pas de photographies prises par d'autres. Vivre le lieu.
Bien entendu. Non, mais les photographies par d'autres ne m'intéressent pas du tout. Aussi, m'intéressent certaines, bien sûr, je ne vais pas tout de même faire le difficile. Mais non, il faut que j'aille pour moi-même prendre les photos, ou avec un collaborateur en tout cas.
Et alors, dans les détails de la vie quotidienne, la nourriture, les objets, le porche d'une maison, tout cela, vous avez probablement des documents iconographiques dans les grands musées, mais il y a des trous. Sûrement, hein, vous
bien
pouvez
sûr,
pas savoir à chaque fois comment étaient faites les rues de chacune des villes que vous avez décrites. Donc à ce moment-là, c'est votre imagination qui fonctionne.
Non, ça dépend. Vous savez, il faut fouiller beaucoup. Les Anglo-Saxons sont beaucoup plus en avance que nous sur ces recherches. Et en Angleterre, en particulier, on trouve beaucoup plus de choses sur l'Antiquité qu'en France. Énormément. Et il y a des gens qui ont consacré leur vie, comme Peter Connolly, à justement ces recherches sur l'Antiquité, avec un dessin, d'ailleurs, Connolly remarquable. Vous avez une collection comme la collection, pas de publicité, mais enfin, comme Osprey, qui relate les uniformes de l'Antiquité, et, entre autres, d'une façon absolument remarquable. En France, on est très en retard là-dessus. Je ne sais pas pourquoi l'archéologie a moins intéressé les Français que les Anglo-Saxons, selon l'ombre d'un doute. Si bien qu'à de nos jours, je parle de notre époque, pour moi, il n'est pas trop difficile de trouver des documents intéressants. Et ça l'a été dans les années 40 et 50. Il n'y avait rien. Rien. Même chez les Anglo-Saxons.
Mais pour la Chine de 50 avant Jésus-Christ, on va reprendre l'empereur de Chine.
Là, c'est autre chose.
D'abord, il y a un voyage. Et vous faites arrêter à Lix et Enak dans différents endroits de l'Inde ou de l'Asie du Sud-Est.
Voilà.
Donc là, il faut aussi des documents sur cette période de 50 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, vous avez quand même
la Chine.
Toute la cour de la Chine, tous les combats, les armements, la nourriture. Là,
là, ça a été très difficile. J'ai dû attendre 5 ans pour faire ce livre. Parce que à l'époque, il faut se reporter, il y a une dizaine d'années, au moment où j'ai fait réaliser ce livre, on avait des difficultés à aller en Chine. Et j'ai voulu y aller, tout le monde m'a déconseillé, on m'a dit non, on n'y allait pas, je n'arriverai à rien. Mais j'ai à ce moment-là eu, à un moment donné, la chance de faire la connaissance d'un monsieur qui avait épousé une Chinoise et qui avait l'autorisation d'aller séjourner 6 mois par an là-bas. Et c'était un artiste peintre, justement. Et un jour, il m'a assuré, m'a porté des documents. Et il me les a apportés très très longtemps après, dans une énorme valise que j'ai toujours, parce qu'il n'est jamais venu rechercher ces documents. Je sais qu'il est installé aux États-Unis et qu'il est spécialisé dans la peinture de vieilles voitures et qu'il est spécialisé dans les locomotives et qu'il a un marché là-bas. Mais la Chine, maintenant, je suppose qu'il a oublié puisque sa chinoise de femme est avec lui. Mais alors, à l'époque où j'ai fait ce livre, où je l'ai réalisé, pour savoir comment était constituée l'armée chinoise de 50 ans Jésus-Christ, c'est très, très difficile. C'est ainsi que, grâce à ce monsieur, j'ai appris que les grades de l'armée chinoise se situaient par un nombre de chignons. Un lieutenant avait 2 chignons, un capitaine 3 chignons, un commandant avait un très très gros chignon, etc. Bon, il fallait savoir ça. Et j'ai appris aussi qu'ils ne connaissaient pas la tuile. Toutes les maisons étaient recouvertes de troncs d'arbres, d'ailleurs c'est ce que j'ai relaté dans le livre, vernissées, d'un vernis jaune. Les fameux toits en forme de pagode que l'on connaît maintenant viennent beaucoup plus tard. À l'époque où il découvre la tuile. Donc il fallait savoir tout ça. Et c'était compliqué, c'était difficile. Et je vous dis, j'ai mis 5 ans pour faire ce livre. Et je n'ai pas pu aller en Chine. Mais malgré tout, mon fils y avait été, comme ça, en voyageur isolé. Il m'avait rapporté pas mal de documents, mais pas du tout ce que je cherchais. C'était difficile.
Jacques Martin, Alix est toujours accompagné de son ami, Enak.
Oui.
La relation entre Alix et Enak a fait couler beaucoup d'encre. Disons tout d'abord que c'est une amitié très riche dans la mesure où c'est un dialogue culturel permanent, puisque Alix est gaulois, donc des pays celtiques plutôt du nord, et Enak est d'une mentalité beaucoup plus orientale et très méditerranéenne.
C'est un Égyptien,
qui serait peut-être même d'ailleurs descendant de roi. Hein,
ce qui agace Alix.
Oui, parce que comme il le considère sur un pied d'égalité, il n'aime pas beaucoup le voir voir entouré.
Non, c'est pas, non, je crois pas sûr. Alix n'y croit pas, c'est tout.
Et Alix, il n'a pas envie d'y croire, en tout cas.
Peut-être qu'il y a une petite jalousie, là, mais j'aime bien justement que mes personnages m'échappent un peu comme ça. D'ailleurs, en parlant des personnages qui vous échappent, je dois dire que le personnage d'Enac, lorsque je l'ai créé, puisque vous m'avez parlé des relations entre Alix et Enac, est un personnage qui m'a échappé dans le sens où j'avais créé Enac uniquement pour une histoire qui était le Sphinx d'or. Et dans mon esprit, il n'y avait pas d'Enac qui suivait. Il n'y avait pas de rôle dans les albums suivants.
Et ce sont les lecteurs qui
ont demandé. Les lecteurs du journal de Tintin qui, à l'époque, ont manifesté leur mécontentement et même leur fureur, par moments, en assaillant le magasin du journal Tintin à Bruxelles, pour réclamer le retour d'Enac. Et on m'a fait venir à Bruxelles, on m'a dit, vous allez, j'utilise le mot qui avait été employé à l'époque, vous allez nous parachuter ce personnage tout de suite. Sans ça, on va avoir des problèmes. Et alors, comme j'étais jeune et docile, j'ai ramené Enac. Et puis, je me suis rendu compte que je ne pourrais plus jamais m'en séparer. Donc, c'est le public qui a imposé Enac. C'est pas moi qui ai imposé ce personnage. Je n'envisageais pas du tout de donner ce compagnon à Alix. Et comme, d'ailleurs, je vous signale en passant que, puisque j'ai tout même travaillé 19 ans avec Hergé, je peux vous dire que le personnage de Haddock a échappé de la même manière à Hergé. Et que Haddock a été imposé par les lecteurs. Il faut se souvenir qu'au début, Haddock est un personnage très peu reluisant. Il brûle ses rames, met le feu au bateau de sauvetage dans lequel il se sauve, il vend son navire. Et c'est vraiment un personnage pas intéressant. Et pour terminer, qu'est-ce que c'est? Un monsieur très élégant qui habite dans un château qui a un papillon et bien l'uniforme. Donc vous voyez l'évolution des personnages. Et ça a échappé à Hergé, comme Enac m'a échappé à
moi. Oui, enfin on voit bien la complémentarité entre Tintin et Haddock, parce que Tintin est toujours très raisonnable, très vertueux, tandis que Haddock représente les extrêmes, la folie, la soulographie, les coups de
colère. Oui, mais plus à la fin, la soulographie, c'est fini. Oui, non, il rejette toujours la bouteille de whisky, comme ça.
Il rejette,
mais
enfin...
Il est tenté, bien sûr, mais...
Quelle complémentarité avez-vous
aussi? Mais justement, entre Alix et Enac, il y a une complémentarité, c'est-à-dire, j'ai tout de même voulu que... ça, j'ai cherché, c'est voulu de ma part, que Alix soit toujours habillé en rouge, parce qu'il a des cheveux blonds. Donc, il représente le soleil. Dans mon avis, Alix Kenak, habillé avec des cheveux noirs, habillé en bleu, représente la nuit, le côté féminin. Alors, s'il y a un féminin dans cette affaire, c'est Enac, ce n'est pas Alix. Mais ils sont complémentaires dans le sens où Enac est plus sombre, c'est le cas de le dire, et en même temps plus réservé, moins aventureux qu'Alix. Donc, ils ont, si vous voulez... Ils se complètent, mais ils sont très différents.
Et très souvent, d'ailleurs, Enac est blessé ou bien laissé pour compte en arrière. Oui. Et Alix est obligé d'aller le sauver.
C'est le frein.
Il ne veut jamais continuer son aventure sans Enac. Hein, c'est pas possible.
Non, mais c'est pas possible. Il ne peut pas continuer sans Enac. Mais d'un autre côté, Enac le freine.
Oui.
Enac n'est jamais au point, n'est jamais à l'heure. Si, mais il n'est jamais dans la course.
Oui, parce qu'il n'a pas l'énergie.
Il traîne un peu, il freine.
Puis il n'a pas l'énergie physique d'Alix.
Oui, non seulement ça, mais c'est pas tellement son affaire. Il n'a pas tellement envie. Si Enac s'écoutait, il resterait tout le temps à Rome. Et puis voilà, il n'est pas aventureux comme Alix. Il n'est pas aussi généreux peut-être qu'Alix. Il ne court pas à la défense de la veuve et de l'orphelin comme Alix.
Voilà, alors nous abordons, Jacques Martin, l'aspect éthique ou moral de ce livre. C'est qu'il y a quand même une lutte continuelle entre le bien et le mal. Le bien représenté par Alix, secondé par Enac, bon, qui parfois freine l'élan, comme vous l'avez rappelé. Et puis à côté de ça, il y a des forces du mal. Et là, la dichotomie est assez claire et nette, ce qui est aussi le propre du genre d'ouvrage qui s'adresse à des adolescents pour lesquels la subtilité entre le bien et le mal, n'y a pas interpénétration des deux. La séparation est claire.
Mais vous dites la dichotomie entre pour les adolescents, là je crois que c'est pour tout le monde. Vous savez, la distance qui est entre le bien et le mal, elle est de tous les âges. Et puis elle est nette à mon avis, elle est claire. Je crois que c'est l'éternelle lutte de l'homme entre...
Oui, mais enfin là, il est clair et net que l'agent de Pompée est quelqu'un de néfaste et qu'au contraire, autour de César, les êtres sont positifs. Même si César, n'est pas idéalisé.
Pas toujours, je ne crois pas. Oui, mais ben, parce que Pompée était, je respecte les faits historiques, Pompée était beaucoup plus, manigant, un homme qui fait des manigances que César.
Enfin, César n'était pas un ange quand même.
Non, loin de là. Oui, il était même revenu de Gaulle avec 150 000 esclaves qu'il a vendus à Rome et qui a fait sa fortune. Il a pu rembourser ses dettes et faire sa fortune. Donc c'était loin d'être un ange. Là, largement. Et il était sévère. Et je crois que dans Vercingétorix, dans l'album Vercingétorix, que se fait valoir qu'il a fait couper les mains de toute une tribu gauloise, d'hommes d'une tribu gauloise de la région de Bordeaux, qui s'était révoltée. Et pour donner l'exemple, pour terroriser. C'est un des premiers généraux qui terrorise. Et ça a eu un effet terrible sur la population gauloise.
C'est ça. Mais de la part d'Alix, il n'y a pas de cruauté chez Alix.
Ah non, jamais. Oui. Non. Non, sûrement pas. Mais l'époque était très cruelle, vous savez. Par exemple, quand on lit des même chez les Grecs, qui pourtant sont de la même famille, lorsqu'ils se battent d'une cité à l'autre, et Thèbes, mettons, contre Athènes, eh bien, le vainqueur impose une loi épouvantable. C'est terrible. Il tue, il massacre, il pille, il viole, il vend des esclaves. C'est une horreur. Et avec des raffinements de cruauté qui moi, m'a toujours choqué. N'est-ce pas? On enlève les yeux du père pour les faire manger au fils, des choses comme ça. C'est vraiment une horreur. Gratuitement, comme ça. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Ben parce que l'homme est comme ça.
Alors Jacques Martin, face à une certaine uniformisation que voudrait imposer l'Empire romain, il y a un thème qui est récurrent dans vos Alix, et moi qui m'a toujours beaucoup touché, frappé, je trouve qu'il est très riche sur le plan poétique, c'est l'existence qu'il y aurait de civilisations qui essaient de se protéger et de garder leur propre identité, leur propre dieu, leur propre mystère, mais qui sont obligés de se cacher dans des lieux parfois tout à fait étonnants et que vous dessinez avec beaucoup, beaucoup d'imagination et beaucoup de poésie. Et ça, à travers plusieurs ouvrages, 4-5 ouvrages, on retrouve ce même thème.
Oui, mais c'est parce que, évidemment, Rome devient absolument omnipotente. Rome, c'est le rouleau compresseur de l'époque. Ce sont une image un peu dure, ce sont les nazis de l'époque. Ils veulent tout avaler, ils avalent tout d'ailleurs. Ils avalent tout, ils mangent tout, ils conquièrent tout. Tout ce qui est... Et alors, à la mort de César, faut même se rappeler qu'il envisageait de faire la conquête de l'Inde, qu'Alexandre n'avait pas réussi à faire. Il aurait peut-être réussi, lui. Parce qu'il avait comme reproche à se faire, c'est qu'à l'âge d'Alexandre, il n'avait encore pas fait grand-chose lorsque Alexandre avait conquis le monde, entre guillemets. Bon, mais ces Romains imposent leurs lois, sont généreux en général en ce qui concerne les religions. Ils adoptent les religions des autres, ils s'en fichent. Et ils s'en fichent pas mal par exemple, les Juifs aient un dieu qui ne leur plaît pas tellement. Ça tournera mal comme plus tard, comme vous savez. Oui. Mais, en fait, ils acceptent ça. Mais en revanche, ils n'acceptent pas qu'on ne se plie pas à la loi romaine. Ce sont des conquérants. Et à partir de ce moment-là, la loi romaine est omniprésente et est imposée. Et voilà. Oui, et alors, il y a des peuples qui essaient de se protéger.
Voilà, mais ces îlots secrets que vous inventez, Jacques Martin, ne sont pas simplement des îlots de désobéissance à l'organisation romaine. C'est aussi des îlots où se préserve une certaine identité.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais,
qu'elle
bien
soit
sûr.
Égyptienne ou ouais. qu'elle soit,
oui, bien sûr, bien
qu'elle
sûr,
soit
bien
étrusque, sûr. Par exemple.
Oui, oui, bien sûr.
Chacun garde ses rituels secrets.
Chacun, c'est, oui. dans mes histoires, chacun essaie oui. de sauver sa civilisation, sa façon de faire, sa façon d'être, ce qui était très difficile.
Avec une relation quand même assez étonnante avec le mystère et les puissances des dieux cachés.
Mais bien sûr, mais parce que j'aime beaucoup cela, et puis j'ai beaucoup étudié les religions de l'Antiquité. J'ai toujours remarqué d'ailleurs que toutes les religions importantes se sont créées dans des zones de fracture. Les grandes religions ne se sont jamais créées dans des zones fertiles et des zones humides. Ça m'a frappé, ça. Hein? Et on constate ça en faisant le tour du monde, d'où viennent toutes les religions, qu'elles soient mayas, qu'elles soient indiennes, qu'elles soient perses, iraniennes, tout ce que vous voulez, toujours dans cette zone de fracture. Et ça m'a beaucoup intéressé, j'ai beaucoup étudié ça.
Alors, retour à Alix après des années d'absence avec votre dernier album sorti en 1996, Au Alexandrie. Et là, on est en plein cœur de l'histoire, puisqu'il y aura une confrontation entre Alix et Nac d'un côté, et puis Cléopâtre.
Oui.
Cléopâtre, laquelle est prise, effectivement, dans ce jeu de puissance entre Rome et l'Égypte.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Mais évidemment, Cléopâtre est un personnage très intéressant, parce que c'est la seule de toute la lignée des Ptolémées qui a été vraiment égyptienne. Tous les autres, ce sont des Grecs, bien entendu, des Macédoniens, et des Grecs qui ne sont qu'à une chose, c'est d'exploiter le jardin formidable qu'est l'Égypte. Elle est très différente, elle aime l'Égypte, elle l'aime en tant que telle, et elle connaît, d'ailleurs c'est la seule qui parle égyptien. C'est curieux ce que je vous raconte, mais c'est comme ça. Elle connaissait cette langue, entre autres égyptien. Bon, on sait ce qu'elle a fait par après, mais à ce moment-là, au moment où je la mets en scène, elle a même âge qu'Alix, à peu près 17-18 ans, elle a déjà été vendue comme esclave. Elle avait subi les pires affronts dans un oasis parce qu'elle avait été vendue par sa sœur Bérénice, dont elle s'est vengée par après, inutile de vous le dire. Et elle a, pour devenir reine, pour se sauver, elle a dû épouser son frère qui a 13 ans, qui est déjà un petit soulard, qui est pourri par son entourage.
C'est ça, et qu'elle méprise profondément.
Oui, bien entendu, qu'elle méprise profondément, qu'elle déteste.
Elle a d'ailleurs un certain mépris à l'égard des hommes, d'une manière générale. Elle est une forte femme.
Oui, c'est une forte femme.
Mais
particulièrement vis-à-vis de ce frère qu'elle haït et qu'elle finira par faire tuer. On ne sait pas comment, mais l'histoire n'en sait rien. Mais enfin, on a retrouvé un jour ce personnage empoisonné. Et puis ensuite, elle épousera, mais ça c'est plus loin, elle épousera son autre frère qui à ce moment-là en 11 ans, qui va être Ptolémée 14, qui lui, on retrouvera un jour mort dans le Nil, coulé par son armure en or.
Mais
ça, c'est beaucoup plus tard.
Là, vous êtes limité par la période à laquelle vous restez fidèle.
Oui, mais alors,
parce que quoi qu'il arrive, vous restez fidèle à ce milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Ça se passe plus ou moins 50 ans.
Vous êtes obligé de la prendre à l'âge qu'elle a, à ce moment-là, et dans cette situation-là.
Tout à fait. Oui. Et alors, à ce moment-là, elle est évidemment dans une sale situation, parce que le père, Ptolémée Olette, a vendu l'Égypte à des négociants romains. Et donc, ils n'ont plus d'argent. La cour d'Alexandrie est ruinée. Alors, il est parti à Rome avec l'argent, puis ils n'ont plus d'argent. Elle cherche de l'argent par tous les moyens.
On retrouve votre goût pour les personnages qui sont liés justement à l'univers invisible, hein, comme des sortes de maîtres spirituels, avec cet homme aux cheveux roux qui habite dans le désert égyptien.
Oui, mais ça, c'est un personnage qui revient des princes du Nil, de l'épisode qui s'intitule Princes du Nil, parce que les roux étaient des personnages bannis à l'époque égyptienne. Surtout en raison du dieu Thoth. Le dieu Thoth était un roux. Donc, c'était des gens qui étaient rejetés de la société. Et on se demande d'ailleurs comment Ramsès II, qui paraît-il était roux,
a pu régner
ou en se teignant les cheveux, vraisemblablement, je ne sais pas.
Oui, ou bien il a retourné le sortilège.
Une malédiction comme ça vis-à-vis des roux. Alors, j'utilise ce personnage de nouveau dans ce récit. Pour, si vous voulez, amener le côté fantastique et le côté ésotérique que j'ai recherché dans cet album.
Voilà, c'est ça, le côté ésotérique de puissance qu'il a à la fois sur les animaux et sur la nature.
Donc, bien sûr, mais c'est une espèce de prophète avant la lettre, une espèce de cénobite avant la lettre.
Et vous y croyez, Jacques Martin, cette puissance de l'homme sur les forces de la nature, sur les animaux?
Mais oui, parce que dans ma vie, j'ai eu l'expérience de même de pas mal de choses comme ça qu'on m'a prédit ou qui se passaient. Et qui était manipulé, manié par des forces occultes que je n'ai pas voulu chercher à connaître parce que ça m'a un peu effrayé.
Vous les mettez en scène.
Je les mets en scène, oui. Par exemple, quelqu'un un jour m'a écrit pour me dire que toutes mes histoires étaient en relation avec le tarot de Marseille et que la 20e histoire d'Alix serait faite comme ça. Et je ne l'ai pas cru à ce moment-là. Mais je me constate qu'elle a eu raison, cette personne.
Mais vous aviez oublié la lettre?
Non, je l'ai toujours.
Ah oui, mais justement, peut-être qu'elle vous a influencé.
Non, mais je n'y ai pas cru. Je me suis dit, de quoi se mêle ce type? Il m'ennuie. Pourquoi me raconte-t-il ça? Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Et puis maintenant, avec le recul, je me rends compte que ses prédictions étaient tout à fait justes.
Donc, il y a une réalité parallèle qui agit sur l'histoire.
Et oui.
Et vous
Nous ne sommes pas toujours libres, comme on le croit, de nos actes et de nos gestes.
On retrouve le romantisme de Jacques Martin, enfant, sur les contreforts des Vosges, là.
Oui, peut-être. Oui. Peut-être. Mais, vous savez, je subis ça, je subis ces phénomènes à contre-cœur, je dirais, à mon corps défendant. J'aime pas beaucoup tout ça, mais je constate. Je décris. Oui. Et je crois que des forces nous dominent, certaines forces nous dominent et nous contraignent, malheureusement.
Et comment est Alix par rapport à ses forces? Parce que lui est un esprit.
Comme moi.
Il est un esprit positif quand même.
Oui, comme moi, mais enfin bon.
Il a l'œil ouvert.
Il n'aime pas beaucoup ça, c'est certain. Vous savez, Alix, je répète ce que j'ai souvent dit. Alix, c'est moi. Arbacès, c'est moi. Le Franc, c'est moi, bien sûr.
Madame Bovary, c'est moi.
Paraphrasant Flaubert, voilà, Madame Bovary.
Sûr, voilà. Tous les personnages sont en partie vous, mais Alix peut-être un peu plus.
Mais Alix, certainement. Oui, il réagit comme, bien entendu, comme moi je réagis dans certaines circonstances. C'est sûr, ça.
Et donc, par rapport à ce mystère, hein, lui qui a un esprit quand même très positif, très organisé, très volontaire, mais de temps en temps, quand il est en face de ces phénomènes-là, on le sent très attentif.
Oui, attentif, mais en même temps, pas très heureux. Et comme moi, quand il n'aime pas... Ça l'étonne chaque fois de constater que ces forces existent et qu'on ne peut pas faire grand-chose contre elles. Ou fuir, ou s'en aller, ou je ne sais pas, enfin, quelque chose comme ça. Et même, je ne sais pas si la fuite sert à grand-chose parfois.
Il est peu souvent amoureux, ça arrive, ou plutôt ce sont les femmes qui sont amoureuses de lui.
Mais lui est très... Ça, nous tombons dans le domaine, là, oui, nous tombons dans le domaine des phénomènes des séries. Il est évident qu'un personnage de série... ne peut pas s'arrêter, autrement dit, ne peut pas se marier. S'il se marie, s'il a des enfants, il ne peut plus continuer à courir le monde.
Enfin, il aurait pu être amoureux sans se marier.
C'est pas facile, ça, parce qu'il serait amoureux chaque fois de notre mari. Enfin, vous savez, les gens qui ont fait James Bond se sont trouvés confrontés avec le même problème. Ils utilisent des madames, ils utilisent des femmes qu'ils n'utilisent plus dans l'histoire suivante. Il ne peut pas s'arrêter.
On sent parfois des jeunes filles ou des femmes, parfois même des femmes plus âgées, il y en a une qui a une quarantaine d'années, très attirées par la beauté.
Alix
qui est magnifique.
Bien sûr.
Et lui, quand même, toujours, Noli m'étant gérée. Hein, de m'approcher.
Pas de toutes. Par exemple, Cléopâtre, là, il se laisse un peu faire.
Il n'a pas tort, d'ailleurs.
Avec Saïs, il a une aventure que je n'explique jamais. Je laisse le lecteur imaginer ce qu'il entend.
Vous avez une idée?
Je ne sais pas, non, je n'ai pas d'idée non plus. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si Cléopâtre est tombé dans la baignoire, si elle n'est pas tombée dans la baignoire. Je ne sais rien du tout. C'est le lecteur qui doit imaginer ça. Je n'ai jamais su si Saïs continuait sa nuit avec Alix ou partait. Je ne sais pas. Je parle du prince d'une île. Et il y en a d'autres comme ça.
À chaque lecteur de découvrir, donc je renvoie à votre dernier ouvrage, O Alexandrie, publié aux éditions Casterman. Et puis, je rappelle aussi que vous avez créé d'autres personnages que nous n'avons pas pu évoquer ici, le personnage de Lefranc et le personnage de Gênes. Mais, voyez-vous, je vous fais une confidence, j'ai été tellement marqué par Alix et tellement attiré moi-même par les pays qu'a traversé Alix que j'étais heureux que nous parlions pendant cette rencontre quasi exclusivement d'Alix.
C'est gentil, à vous, merci beaucoup.
Ainsi se termine Fort Intérieur. Notre invité était Jacques Martin, une émission d'Olivier Germain Thomas, préparée avec la collaboration d'Annick Aumier, à la technique Édouard Campras, chargé de réalisation Hélène Daude.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 avril 1998. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.